Le filtre.
Une litière légère, portée par deux mules à la tête desquelles couraient des valets, pénétra dans la grande cour de l'hôtel d'Artois, rue Mauconseil. Béatrice d'Irson, nièce du chancelier d'Artois et demoiselle de parage de la comtesse Mao, en descendit. Nul n'aurait pu penser que cette belle fille brune venait de parcourir près de 40 lieues en 2 jours. Sa robe était à peine fripée. Son visage était lisse et frais comme au sortir du sommeil. D'ailleurs, elle avait dormi une partie de la route sous de bonnes couvertures au balancement de la litière. La poitrine haute, la jambe longue, avançant d'un pas qui paraissait lent parce qu'il était allongé et toujours égal, elle se rendit directement auprès de sa maîtresse. La comtesse était attablée devant son second repas qu'elle prenait vers tierce. « C'est fait, madame, » dit Béatrice, en tendant à la comtesse une minuscule boîte de cornes. « Comment va ma fille Jeanne ?» D'une voix traînante, nasale et toujours vaguement ironique, même quand il n'y avait aucun motif à ironiser, la demoiselle de parage répondit, marquant des pauses inattendues, « La comtesse de Poitiers va bien, madame, aussi bien qu'il se peut. Le séjour de Dourdan ne lui est point trop pénible. » Elle a mis de son côté les gardiens. Elle a le teint clair et n'a que peu maigri. Elle est soutenue par l'espérance et le soin que vous prenez d'elle. « Ses cheveux ?» demanda la comtesse. « Ce sont des cheveux d'un an, madame. Pas aussi longs encore que des cheveux d'homme, mais ils semblent pousser plus drus qu'ils n'étaient avant. « Enfin, est-elle présentable ?» « Avec une guimpe autour du visage, assurément, et puis elle peut s'orner de fausses nattes. » « Les faux cheveux ne se gardent pas au lit, » dit Mao. Elle avala par grande cuillerée la fin d'un potage au pois et au lard, et pour s'alléger le palais, but un gobelet de vin d'Arbois. Puis elle ouvrit la boîte de corne, considéra la poudre grise qui en formait le contenu. « Combien cela me coûte-t-il »«
22 livres. »«
Peste ! Les magiciennes font bien payer leur science !»«
Elle risque gros. »«
Combien là-dessus as-tu gardé pour toi ?»«
Presque rien, madame. » « Juste de quoi m'acheter cette robe d'écarlate que vous m'aviez promise et ne m'aviez point donnée ?»
La comtesse Mao ne put s'empêcher de sourire. Cette fille savait comment la prendre. « Tu dois avoir le ventre creux, goûte un peu à ce pâté de canard, » dit-elle en se servant à elle-même une épaisse tranche. Puis, revenant à la boîte de corne, elle ajouta « Je crois à la vertu des poisons pour se débarrasser d'un ennemi, mais guerre au filtre pour se gagner un adversaire. » Ce sont tes idées, pas les miennes.
Et pourtant, je vous assure, madame, qu'il y faut croire, répondit Béatrice. Celui-ci est fort bon. Il n'est pas fait à la cervelle de mouton, mais seulement aux herbes, et préparé devant moi. Je suis donc allé à Dourdan, et j'ai tiré un peu de sang du bras droit de madame Jeanne. Puis j'ai porté ce sang à la personne que je vous ai dit, Isabelle de Ferrienne, qui l'a mélangé avec de la verveine, de l'amourette, de la livèche, et cette férienne a prononcé la formule de conjuration. Elle a déposé le mélange sur une brique neuve et l'a brûlé avec du bois de frêne pour obtenir la poudre que je vous apporte. Il n'est plus maintenant qu'à mettre cette poudre dans une boisson, la faire avaler au comte de Poitiers, et avant peu, vous le verrez repris d'amour pour son épouse, avec une force que rien ne pourrait entraver. Doit-il toujours venir vous visiter ce matin ?
« Je l'attends, il est rentré de l'os hier soir, et l'ai prié de passer me voir. »«
Alors je vais aussitôt mêler le filtre à l'Hippocras, que vous lui offrirez à boire. L'Hippocras, qui est chargé en épices et sombre de couleur, dissimulera bien la poudre. Mais je vous conseille, madame, de vous remettre au lit et de feindre d'être malade pour avoir prétexte de ne pas boire vous-même, car il ne faudrait pas que vous alliez absorber ce breuvage. » Et vous trouvez prise d'amour pour madame votre fille.
C'est en tout cas une bonne idée que de le recevoir couché, répondit la comtesse d'Artois, et de me prétendre en mauvais point. On peut dire les choses plus droitement. Elle fit enlever la table, demanda une robe de nuit et se remit au lit. Puis elle appela auprès d'elle son chancelier, Thierry d'Irson, ainsi que son cousin Germain, Henri de Sully, qui logeait chez elle. Et elle travailla en leur compagnie aux affaires de son comté. Un peu plus tard, on annonça le comte de Poitiers. Il entra, vêtu de sombre comme à l'ordinaire, ses jambes de héron chaussées de bottes souples, et la tête, sous le chaperon à crête, un peu penchée au bout de son long corps.
« Ah, mon beau-fils !» s'écria Mao, comme si elle avait vu apparaître le sauveur. « Que je suis aise de votre venue, savez-vous à quoi je m'occupais? Je me faisais lire l'état de mes biens pour dicter mes volontés dernières. J'ai souffert la plus mauvaise nuit du monde, toute torturée aux entrailles par l'angoisse de la mort, et j'avais grand crainte de passer outre sans vous avoir ouvert ma pensée. Pour ce que je vous aime, en dépit de tout d'un cœur de mère. »
Afin de conjurer les mensonges qu'elle venait de proférer, elle tira le petit reliquaire en forme de médaillon qu'elle portait sur la poitrine au bout d'une chaîne d'or et le baisa dévotement.
« Que Saint Druon me protège !» dit-elle en reglissant le médaillon dans son vaste corsage.
Bien installée parmi ses coussins de brocart, les joues rebondies et colorées, l'épaule large, le bras charnu, Mao offrait les signes d'une robuste santé. Tout au plus aurait-elle eu besoin peut-être de se faire tirer une ou deux pintes de sang.